Frères et sœurs bien-aimés, hier avec toute l'Église, nous avons commencé la lecture du livre de Jonas qui occupe la première épître de nos cérémonies. Nous avons entendu hier que ce jeune prophète Jonas devait partir, telle était la mission que lui a signée Dieu, pour aller convertir la ville de Ninive. Et qu'a-t-il fait? Il a pris le premier bateau pour se rendre à Tarsis et là a vécu un grand moment de conversion et de retour au Seigneur. La mer était tellement déchaînée que le conciliabule des marins dans la cale affirmait « Quelqu'un a fait quelque chose contre l'un des dieux, car nous n'avons jamais vu une mer aussi en furie » et Jonas de dire qu'il n'avait pas accompli la volonté de Dieu. Et voilà qu'il fait le sacrifice de sa vie, on le jette par-dessus bord. Jonas a fini par être avalé par le monstre marin et a passé 3 jours dans ce monstre marin où il fait une belle prière de conversion et de retour à Dieu et expulsé de ce monstre 3 jours après, voilà la lecture d'aujourd'hui, il se rend dans la ville de Ninive pour accomplir la volonté de Dieu. Les leçons que nous avons tirées hier de ce grand récit que reprendra le Seigneur dans l'Évangile en disant que cette génération n'aura pas d'autre signe que celui de Jonas et déjà de nous dire que même si nous ne faisons pas spontanément la volonté de Dieu, Dieu se sert même de nos désobéissances pour parvenir à un bien plus grand. Dans le navire, les marins en sont venus, non plus à prier leurs idoles païennes, mais à invoquer le Dieu de Jonas. Dieu s'est donc servi de cette désobéissance pour amener à la foi ces païens. Ayant passé 3 jours dans le ventre du monstre, voilà l'image que le Seigneur Jésus donne à sa génération de sa mort et de sa résurrection. Le 3e jour, il est englouti dans les abîmes de la mer. Et les Juifs n'étaient vraiment pas un peuple de marins, redoutaient profondément la mer et également ne connaissaient guère toute cette faune multiple et innombrable qui peuple les fonds marins. Cette image d'avoir été englouti par le monstre pendant 3 jours, c'est l'image de chacun d'entre nous, celui qui nous engloutit dans le mystère de la mort. Et c'est là, dans le ventre de la baleine, que Jonas a fait monter cette prière de regret vers le Seigneur et qu'il fut expulsé le 3e jour pour aller donc convertir Ninive, image du Seigneur qui nous fait passer de la mort à la vie éternelle. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts, comme l'affirme le Credo. Aujourd'hui, nous assistons à la conversion de la ville de Ninive. Ninive, une ville extraordinairement grande, nous dit l'auteur de cette parabole, puisqu'il fallait 3 jours à pied pour la traverser. Une ville qui n'était pas tournée vers la grandeur de Dieu, ni même vers les aspirations de la loi sainte. Et si Jonas avait voulu s'échapper par le premier bateau loin de la volonté de Dieu, c'est parce que la ville est extraordinairement grande. Et qui était-il, lui, envoyé par le Seigneur Dieu d'Israël pour aller dire à tous ces gens innombrables qu'il fallait se convertir, sinon le bon Dieu allait détruire la ville? Mais voilà qu'expulsé du monstre marin, étant revenu vers Dieu de tout son cœur, il passe même pas une journée entière et déjà les effets de sa simple prédication assistée par la grâce de Dieu portent du fruit. Voilà que dès les premières prédications de Jonas, les gens et leur cœur se mettent à retourner vers le Seigneur, que le roi en entend parler, descend de son trône, nous l'avons entendu, et annonce un jeûne public. Lui-même, comme les habitants sont vêtus de toile de sac, on s'assoit sur la cendre, on se met de la cendre sur les cheveux, sur les visages. Parce que qu'est-ce que la conversion? C'est ce que dit le père du fils prodigue quand celui-ci revient à lui. Il ne dit pas « mon fils était parti, il est revenu ». Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était mort parce que le fils prodigue a dépensé tout l'argent du père dans une vie de grand désordre et que là, il revient vers son père, il revient pour entrer à nouveau dans l'alliance. Et le Seigneur, qui veut nous parler bien plus de ce père miséricordieux que du fils prodigue qui revient, nous dit que de loin, il le reconnaît, l'aperçoit. Il n'arrivait pas fier comme Artaban, tel il était parti, mais tel il ne revient pas. Il se jette dans ses bras pour l'accueillir. Et c'est ce qui se passe pour la ville de Ninive. Voilà qu'on décide de revenir au Seigneur et que le Seigneur se laisse toucher. Le Seigneur se laisse toucher par les cœurs sincères qui décident de revenir à lui, même si on ne sait pas toujours comment revenir au Seigneur, ni même comment mieux vivre, ni même si on en aura la force. Le bon Dieu est là pour nous aider à avancer à sa rencontre. Ainsi donc, voilà que cette conversion est proclamée et que Jonas, finalement, avait à avoir plus confiance en Dieu qu'à ses propres forces, puisque cette conversion a été opérée et que, eh bien, le Seigneur ne détruira pas la ville de Ninive. Lors de ses apparitions à Pontmain, la bienheureuse Vierge Marie, alors que la France était en grand danger, eh bien, va affirmer ceci dans le ciel en écrivant dans ses lettres d'or au-dessus de cette grange où elle apparaît à des petits-enfants « Mon fils ». Se laisse toucher. Elle commence par dire « Mais priez !» Et voilà à quoi la Vierge nous invite, à unir notre âme à Dieu dans la prière. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » Et voilà que les enfants qui lisent lettre après lettre dans le ciel, eh bien, voient qu'il y a un gros point à cette phrase. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » Et l'autre phrase qui n'a pas de ponctuation, « Mon fils, se laisse toucher. » Chaque fois, et c'est bien la dynamique du livre de Jonas, que nous décidons de revenir vers le Seigneur de tout notre cœur, il y a le jeûne, il y a l'aumône, il y a la prière pour revenir vers le Seigneur, manifester ce désir de revenir à lui, il nous accorde sa grâce. « Mon fils, se laisse toucher. » N'ayons donc aucune crainte de confier au Seigneur chacun des membres de nos familles, de nos fidèles défunts, de tous ceux qui nous inquiètent, car le Seigneur, comme Notre-Dame, sont toujours inquiets de nos inquiétudes, soucieux de nos soucis, surtout qu'il nous faut toujours préférer l'œuvre de Dieu. C'est l'image de l'Évangile qui nous a présenté Marthe et Marie. On pourrait se dire, effectivement, Marie n'est quand même pas très vaillante. Voilà qu'elle laisse Marthe opérer tout le service alors qu'elle a le privilège d'accueillir le Seigneur en son incarnation dans sa maison. Et on pourrait se dire, mais que dit donc le Seigneur, qu'il ne faut donc pas s'aider les uns les autres ni participer aux tâches ménagères. Non, le Seigneur nous rappelle qu'avant les soucis du monde, il y a avoir grand souci de notre salut et des choses de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Que fait Marie? Elle est assise au pied du Seigneur, elle fait la conversation avec celui qui est le Verbe de Dieu et qui a les paroles de la vie éternelle. Et le Seigneur ne désordonne pas tout cela. Ce qui est premier, c'est la loi de Dieu et cette vie de la grâce qui coule en nous depuis le baptême. Ce qui est en second, c'est les soucis du monde. Bien sûr, nous sommes soucieux et inquiets des membres de nos familles, de nos malades, du salut de nos défunts. Mais ce qui doit être premier, comme pour Jonas, c'est la confiance que nous plaçons en Dieu. Cette confiance se dit en un mot très court de 3 lettres, c'est la foi. Avoir la foi, c'est placer notre confiance en Dieu. Bien, puisse le Seigneur Jésus qui nous donne le signe de Jonas, qui réajuste la position entre Marthe et Marie, nous faire comprendre que ce qui est premier, c'est le règne de Dieu et que tout le reste nous sera donné de surcroît. Ainsi soit-il.